Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en fin de semaine et avant le service minimum du week-end, voici l'espace de débriefing du studio Tamani dédié aux confrères de la presse publique et privée du Mali. Voici les thèmes qui meubleront les 45 minutes de cette émission. La visite du président Blaise Compaoré au Mali, le sommet ouest africain sur le virus Ebola, le ramadan, spiritualité et hausse des prix des denrées alimentaires, le passage du Mali au taux numérique et l'interdiction d'importation de téléviseurs analogiques. Nos invités, Togola Awasimega de kunafuni.com, Mbaye Koulibaly du syndicat des jeunes reporters du Mali et Amadou Tal du journal Le Matin. Merci messieurs pour votre disponibilité, merci madame pour la disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé et Petit Ndiara m'assiste à la technique.
Studio Tamani.
Alors, tout d'abord, la visite du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso et médiateur de la CEDEAO dans la crise du Mali. Que traduit la visite du président Blaise Compaoré au Mali, Mbaye Koulibaly?
Merci. Cette visite, d'abord, il faut savoir qu'elle était inattendue parce qu'elle est venue vraiment, la grande surprise. Des points ont été abordés, notamment la question du Nord, dans laquelle le Burkina a joué au moment de la transition un rôle assez important. Ensuite, il y a eu les questions d'agriculture, ça a permis aussi à Blaise de rencontrer la forte communauté burkinabé qui réside dans cette partie du Mali. Je pense que pour cette visite, il faut noter un aspect très important, c'est surtout la rencontre du président Blaise avec sa communauté burkinabé. Parce que vous savez, actuellement, le président Blaise est extrêmement acculé au niveau national par l'opposition qui, quand même, ne veulent pas qu'il se présente pour les prochaines élections. Et a priori, il semble que le président Blaise, actuellement, veut mettre s'appuyer sur les Burkinabés de l'extérieur. Je crois que moi, si je dois résumer sa visite, je crois que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, Blaise veut se baser sur les Burkinabés de l'extérieur pour pouvoir briguer un troisième mandat. Sinon, les questions du Nord, je crois que le moment le plus important pour qu'il puisse venir, si c'était la transition, il n'est pas venu au Mali à cette époque-là. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il viendra au Mali pour parler des questions du nord du Mali. Je crois que c'est vraiment ça aujourd'hui. L'aspect le plus important, c'était vraiment de venir rencontrer cette communauté forte, communauté burkinabée qui réside dans le sud du Niger. Et voilà, pouvoir les convaincre pour un troisième mandat.
Voilà, et d'ailleurs, cette zone de l'office du Niger, cet axe-là était sécurisé par un contingent burkinabé au fort moment de la crise sous l'occupation des djihadistes. Alors, Amadou Tal, du journal Le Matin, que traduit cette visite selon vous?
Avant toute chose, officiellement, on peut croire que cette visite signifie la relance et la reprise des négociations et des dialogues entre les deux parties.
Les groupes armés et le gouvernement du Mali.
Et a priori, c'est ce qu'on peut croire, mais en réalité, il n'en est rien du tout. Parce que déjà, le général Moussa Traoré, en son temps, avait signé un accord avec les Touaregs. Toutes les autorités maliennes qui se sont suivies depuis la chute du général Moussa Traoré jusqu'à aujourd'hui ont affirmé une seule chose en ce qui concerne la crise du Nord, c'est que la seule solution valable pour résoudre le problème, c'est le dialogue et la négociation. Donc, du côté malien, il n'y a jamais une volonté de faire autre chose que de négocier pour trouver une solution politique à la crise. Donc, si rupture ou ralentissement a eu lieu par rapport à la roue du dialogue, eh bien, c'est pas le Mali. Et il est grand temps que la communauté internationale fasse la pression sur la partie adverse qui, à mon avis, c'est cette partie-là qui ne veut pas de la négociation, qui préfère cette association. Donc, la visite de Blaise dans la rédaction du Matin, nous avons analysé ça comme une affirmation de la justice des vainqueurs.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que le 17, le Premier ministre du Mali a fait une visite à Kidal, qui était programmée depuis un mois, qu'il avait annoncé devant les députés de l'Assemblée nationale. Et personne n'avait rien trouvé à redire, puisque les gens avaient applaudi. Et je suis convaincu que le Premier ministre a organisé son voyage en sachant que sur place, il y avait l'Esterval et l'AMINUSMA qui devaient assurer sa sécurité. Bon, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, il y a eu le 21, où on ne sait pas comment est-ce que cette guerre, parce que c'est une vraie guerre qui a éclaté entre les deux parties.
Alors, c'est quand même une visite de travail et d'amitié, selon la présidence. Aujourd'hui, le Burkina était quelque peu écarté de cette négociation, du processus. L'Algérie avait tendance à revenir au devant de la scène. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas comme un retour de Blaise Compaoré pour reprendre la main?
Absolument. La réponse est affirmative. Parce que les Maliens, que ce soit du sommet ou du bas, ne voulait plus avoir Blaise comme médiateur dans notre dossier.
Alors aujourd'hui, tout le monde s'accroche à l'accord de Ouagadougou qui a été obtenu grâce à son implication.
Une fois que nous avons été défaits à Kidal le 21, automatiquement, on nous a obligés à aller faire un tour à Ouagadougou. Sommes allés à Ouaga tout de suite.
Est-ce que c'était une obligation?
Oui, on n'a pas le choix.
Voilà. Alors, nous allons nous tourner vers la seule dame autour de cette table, Madame Tugula Awa Simega de Kunavoni.com. Awa qui nous fait l'honneur d'être là ce soir pour la première participation. Awa, qu'est-ce que vous pensez de cette visite du président Blaise?
Moi, de mon point de vue, la visite de Blaise s'imposait. Parce que dans la mesure où la population malienne a le sentiment que Blaise joue le jeu de la rébellion en accueillant le MNLA au Burkina, donc là, Blaise, il a sérieusement besoin d'accorder ses violons avec déjà le gouvernement qui est en place. Et à travers cette visite-là, je pense qu'il a saisi toutes les chances de démontrer qu'il est non-partisan. Voilà.
Alors, nous restons avec vous, Awa, avec la deuxième partie donc de ce premier volet, le sommet ouest-africain sur le virus Ebola. Au moment où l'on pensait que le virus Ebola était maîtrisé, on assiste désormais à des rebondissements quasi quotidiens. L'Afrique a-t-elle les moyens aujourd'hui de lutter contre ce virus?
Je pense qu'à travers ce sommet-là, initié par l'OMS, c'était important. Je dirais qu'elle a les moyens de lutter contre le virus Ebola si elle se donne la main. Donc c'était important que la réunion se tienne au Ghana. Et je crois qu'elle est terminée, c'était hier ou aujourd'hui. Voilà, donc elle permettra aux différents pays de mieux accorder leur aide, de mieux coordonner les actions dans la lutte contre le virus, parce que chaque pays a une conduite à tenir. Et là, en se donnant la main, je crois que ça fera freiner la maladie, le virus. Donc cela montre également l'intérêt et la volonté des États à lutter contre ce virus-là. C'est vrai que je ne dirais pas que c'est intervenu tard, mais il était vraiment temps que les pays se donnent la main pour pouvoir trouver une solution ensemble, une solution unanime, afin de mieux lutter contre ce virus-là.
Alors, Baye, aujourd'hui, le virus, ça va au-delà des préoccupations maliennes, guinéennes. Ça fait, c'est quasiment toute la sous-région qui est dans la danse aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les pays de l'Afrique de l'Ouest peuvent à eux seuls endiguer ce problème?
Extrêmement difficile à dire parce que vous n'êtes pas sans savoir la limite de nos capacités. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord répondre rebondir sur une question. C'est la question selon laquelle Blaise veut venir au Mali pour un peu se montrer la patte blanche. Je crois que c'est extrêmement difficile parce que si nous regardons un peu tout ce qui se passe par rapport à cette rébellion, je crois que ils n'ont d'autre autre que Blaise, parce que toutes les déclarations et tout ce qu'ils font, c'est à partir du Burkina qu'ils le font. Donc, pour qu'aujourd'hui Blaise puisse monter patte blanche au Mali, je crois qu'il faut qu'il cesse justement d'abriter ces gens au Burkina Faso.
Exact.
Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et par rapport au virus Ebola, je crois que nos États, comme on le sait, nos États sont assez limités dans leurs moyens. Aujourd'hui, il faut vraiment une mobilisation de la communauté internationale, y compris l'OMS, pour vraiment pouvoir endiguer ce fléau. Parce que vous savez qu'il y a déjà des États très proches du Mali qui sont touchés, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a le Libéria, il y a la Sierra Leone, il y a aussi la Guinée. Moi, la question fondamentale que je me pose, je ne sais pas si j'ai toujours le droit de me poser cette question, pourquoi le virus n'est pas au Mali? Souvent, je me demande, est-ce que c'est un virus réellement qui résiste au climat tropical ou bien qu'est-ce qui le fait? Parce que, vu quand même la fragilité de nos États, je me demande réellement pourquoi nous, on n'a pas...
Il y a quand même eu des mesures aux frontières.
Effectivement, il y a eu quand même des mesures.
Non seulement il y a eu des mesures, mais je pense que Ebola est très, très sensible à la chaleur, à la forte chaleur.
Et
parce que ça a coïncidé avec la période de chaleur.
Okay.
Et c'est pour ça que le Mali a eu la chance, en fait, de ne pas avoir ce virus.
J'espère que l'hivernage ne va pas nous démentir de ça.
Alors, on a reçu des spécialistes qui disent que l'hivernage n'a aucun effet de propagation. Donc, sur ce point-là, on peut être rassuré.
Tranquille.
Alors, Amadou Tall, un mot sur ce sommet ? Sur le virus Ebola, Amadou Tall du journal Le Matin.
Oui. Est-ce que les Africains ont les moyens? Non, on n'a pas les moyens. Mais nous sommes pas seuls au monde, surtout par rapport à un dossier comme celui-là, puisque la communauté internationale est intéressée par nous aider, parce que les éléments de la communauté internationale vivent avec nous. Donc même si ce n'est pas par gentillesse qu'ils veulent nous aider, eh bien, c'est parce qu'ils ont des ressources parmi nous et parce qu'aujourd'hui, nous bougeons aussi. Si nous sommes malades, nous allons transporter la maladie avec nous. Donc, nous n'avons pas les moyens, mais nous pouvons compter sur le soutien de la communauté internationale. Mais ce qui nous a manqué le plus, c'est le sens de la responsabilité.
Voilà. Ce sens que
c'est le sens de la responsabilité qui a manqué aux responsables de l'Union africaine. Parce que cette maladie-là, et on connaît sa nature, elle est très dangereuse, elle est tueuse. Hein. Elle est aujourd'hui sur trois pays. Et la communauté internationale s'est alarmée déjà depuis le mois de février. Et c'est nous seulement le 3 juin que nos chefs d'État se sont réunis pour en parler. Et même ça, sur insistance de la communauté internationale qui a vu que nous ne faisons rien. Alors donc, on n'a pas les moyens, mais on peut avoir du soutien.
Moi, je pense qu'on a les moyens. Il faut se donner les moyens, en fait. Il faut se donner les moyens de lutter contre ce virus-là. Parce qu'il ne faut pas tout le temps toujours attendre aussi que la communauté internationale intervienne, agisse, pour que nous luttions contre ces fléaux-là.
Oui, c'est vrai.
C'est important.
Alors, vous avez quelque chose à ajouter, Amadou?
Non.
Moi, je voulais ajouter quelque chose.
Allez-y, Ewa.
En fait, je pense qu'il faudrait que chaque pays mène des campagnes de sensibilisation. Régulièrement des campagnes de sensibilisation afin de mieux lutter contre le problème.
Okay. Alors au Mali, ça s'est traduit par des spots publicitaires et même radio. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de ce forum de la presse.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle. L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Djamana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz, Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz, Issaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Et trois radios à Bamako diffusent nos programmes, à commencer par la radio Liberté, Benkan et Guintan, la voix des femmes. C'est toujours un honneur de vous savoir nombreux à notre écoute. Le forum de la presse reprend sa place et nous sommes à sa deuxième partie. Cette deuxième partie est consacrée au Ramadan, spiritualité et hausse des prix des denrées alimentaires. Est-ce que les deux vont ensemble? Les invités que nous avons ici vont nous dire si cela est compatible compatibles. Togola Awasimega, kunafuni.com, Mbaye Koulibaly du syndicat des journalistes reporters du Mali, des jeunes reporters du Mali, et Amadou Tal du journal Le Matin. Alors, le ramadan perd-il son sens religieux au Mali avec les différentes spéculations que l'on constate sur les marchés pratiquement tous les ans, Mbaye?
Oui, effectivement, c'est vraiment la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui. Est-ce que le ramadan garde vraiment son sens spirituel? Je crois que, moi, à mon avis, je dirais que pas du tout, parce que le ramadan fait l'objet de beaucoup de spéculations sur non seulement le palier du manager, notamment sur les denrées de première nécessité. Donc, l'année dernière, c'était le moment attendu. On parle de soudure et puis c'est la hausse de prix. Et cette année encore, on revient à la même chose. Donc, ce qui oublie chaque fois, le gouvernement a recouru à des mesures, quand même, des mesures de
drastique,
notamment avec la subvention. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous apprenions, surtout par rapport à ces subventions, nous apprenions à anticiper. Parce que les subventions, c'est une perfusion, mais il ne faut pas que chaque fois que les commerçants se servent de cette période pour augmenter les prix. Et puis, on sait comment les subventions, ça marche au Mali. Donc, souvent, ça pose énormément de problèmes. Il y a 3 ans, je crois, ce problème avait été posé lorsqu'on avait demandé l'importation de 50 000 tonnes de riz. Donc, avec les subventions qui ont été posées, donc les résultats n'ont pas été atteints. Donc, ce qui fait que, franchement, on se demande aujourd'hui, est-ce que les subventions, c'est nécessaire? Donc, parce que si on n'anticipe pas, à chaque fois, il faut attendre. Donc, souvent, ça prend même l'influence pour que ça prenne, parce qu'il faut faire les commandes. Ensuite, que ces commandes arrivent. Donc, souvent, ça fait de sorte que les commandes n'arrivent pas et que, vraiment, tout de suite, on n'a pas cette réflexion sur la panier du ménageur. Mmh.
Alors, Amadou Tal du journal Le Matin, les commerçants se plaignent du fait que le ramadan intervient souvent en période de soudure et souvent c'est des moments compliqués qui nécessitent à ce qu'on augmente les prix. Est-ce que vous trouvez concevable que cela n'intervienne qu'en période du ramadan?
Non, c'est pas acceptable. D'ailleurs, c'est incompréhensible. Parce que quand on voit ce pays aujourd'hui, le taux de musulmans au Mali, et ensuite le fait que l'islam s'enracine de plus en plus au Mali, c'est bizarre de constater que malgré tout ça, une fois que le ramadan approche, les prix prennent l'ascenseur. Mais cette année, j'avais un peu le sentiment que cette année, les prix n'ont pas vraiment augmenté. Au contraire, parfois, il y a même des baisses au niveau du sucre, du lait en poudre. On ne peut pas dire vraiment que les prix ont pris l'ascenseur. Bon, la viande est un problème à part. Et le gouvernement, d'ailleurs, est en train de manœuvrer par rapport à ça. Mais je pense quand même que quand les Maliens aiment, ils ne comptent pas. Donc, le ramadan, quel que soit le prix, les Maliens vont faire le ramadan. Ils vont faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'ils peuvent avoir, sans vraiment, sans y penser, vont le faire. Mais une chose quand même est certaine, c'est que le ramadan, on sait que ça va arriver dans 12 mois. Alors, pourquoi chaque fois on attend la dernière minute pour faire les préparatifs, pour faire ce qu'il faut, alors qu'il y a des solutions?
Alors, les femmes, nous avons une représentante dans ce studio. Les femmes, est-ce que vous parvenez à vous débrouiller malgré ce tiraillement entre les commerçants, la société civile et le gouvernement?
Ah, c'est difficile, c'est assez difficile parce que déjà le panier de la ménagère s'est serré. Donc, avec la hausse de ces prix-là, imaginez le prix du kilo de viande qui va à 2200 francs. 200 francs, c'est excessif. Donc, c'est assez important. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour la baisse de ces prix-là. Mais je pense que l'association des consommateurs doit vraiment jouer son rôle. Parce qu'on a l'impression qu'ils n'existent pas. Ils sont trop passifs. Parce que quand il faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour agir. Il faut agir avant. Et à chaque fois, c'est à l'approche du ramadan que les prix des denrées alimentaires augmentent. Donc, c'est incompréhensible. Je pense que les religieux doivent aussi jouer leur rôle à ce sens-là, parce que toutes les associations religieuses, le Haut Conseil islamique et tout, donc ils doivent mener régulièrement des campagnes pour pour dire aux commerçants que le mois de carême, ce n'est pas un mois pour se faire de l'argent, ce n'est pas un mois pour se remplir les poches. Vraiment, il faut qu'ils comprennent ça.
Voilà. Alors, nous allons parler aussi également de cette relation qu'il y a entre le jeûne et la santé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les fidèles musulmans, la société civile est assez renseignée par rapport à cet aspect-là, à cette compatibilité entre le jeûne et les maladies?
Vous savez, le jeûne, c'est un pilier de l'islam, parmi les cinq piliers. C'est une obligation lorsque on a la santé nécessaire pour le faire, santé physique, bien sûr, et santé mentale aussi. Donc c'est extrêmement important. Et quand ces deux ne sont pas valables sur un individu, je crois que la personne est exempte selon le droit musulman. Donc pour répondre à votre question, je dirais évidemment Ramadan rime avec santé. Sinon, quelqu'un qui est malade ne peut pas bien sûr jeûner.
Alors, je vais peut-être revenir un peu sur cet aspect économique aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a un œil assez sévère sur la stabilisation des prix à Amadou Tall? Parce qu'à chaque fois qu'on voit que les prix d'un produit ou de tel produit augmentent, on ne voit jamais que ce prix-là revienne à son niveau d'antan.
Je pense que vraiment que le gouvernement fait ce qu'il peut. Hein. Je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut. Mais le problème, c'est que le gouvernement, dans cette affaire-là, et nous-mêmes, par la même occasion, nous avons affaire à des gens qui sont aveuglés par le profit. La perspective de faire des profits les aveugle et les rend sourds. Ils ne veulent rien comprendre, ils ne veulent rien entendre. Le fond du problème, c'est vraiment ça. Que chaque commerçant ait la conscience qu'il est malien, qu'il a affaire à des maliens, que c'est une période religieuse et que vraiment, ce n'est pas le moment, comme dit Awa, de faire de l'argent.
Il faut aussi que la population s'implique. Parce que quand il y a la hausse des prix, il faut refuser. Il faut refuser. Quand on boycotte ces produits-là, c'est clair qu'il y aura les commerçants, ils vont revenir à de meilleurs sentiments.
Alors, il y a cette vision. Est-ce que vous pensez que Awa, de Kounafoni.com, que les 200 francs qu'on subventionne aujourd'hui sur le prix de la viande, est-ce que ces règles-là seront suivies?
Ce sera peut-être suivi, mais très difficilement. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui vont refuser. Ils vont se dire non, on prend cette viande, la viande coûte cher, donc on vient vendre à perte. Et donc là, ça va être vraiment compliqué. Ça va être très compliqué. Déjà, quand les prix montent, c'est difficile que ça redescende.
Voilà. Bye.
Et moi, je pense que c'est extrêmement important parce que quand vous prenez tout de suite une mesure et puis vous voulez avoir l'impact tout de suite, c'est difficile parce que les gens, ils ont des stocks. Les commerçants, ils ont des stocks. S'ils n'achètent pas ces stocks-là, donc c'est difficile qu'ils rentrent dans le nouveau jeu qui vient d'être mis en place. Donc, pour le moment, je crois qu'il faut attendre une semaine au moins pour pouvoir se prononcer si c'est possible ou pas. Mais moi, je pense que je suis très pessimiste, mais que vraiment ça puisse avoir un impact sur la panier du ménage.
Je pense que le gouvernement, notamment son chef, n'est pas du tout deep. Hein. Il connaît très bien les Maliens. Il a eu ses propos qui montrent vraiment qu'il veille au grain. Parce que les subventions, il a bien compris qu'une fois qu'on parle de subventions, même ceux qui vont égorger chez eux dans les quartiers, ils vont se positionner aussi pour avoir les subventions. Donc il a dit, il n'est pas question que celui qui égorge dans son quartier à la maison, qui ne vend pas, touche aux subventions. Et qu'il va veiller à ce que c'est uniquement ceux qui vendent la viande aux populations
qui auront droit. Ceux qui amènent leur bétail aux abattoirs.
C'est ça. Et qu'il fera ce qu'il faut pour que cela soit.
Alors, est-ce que les autres produits peuvent... parce qu'aujourd'hui, on a un regard sur la viande. Est-ce que le sucre, certains produits comme le sucre, le lait, peuvent rester à leur niveau actuel? Parce que le sucre, quand même, c'est un autre point d'orgue, Amadou.
Non, le sucre aujourd'hui est abordable. Et le lait en poudre, je ne dis pas les grandes qualités, je ne dirais pas de nom, mais la haute crème du lait, c'est vrai, cette qualité-là, elle est chère, mais le lait moyen et la qualité, ça reste abordable. les dates aussi.
Alors, bah, comparativement à l'année dernière, est-ce que les prix varient?
Bon, comparativement à l'année dernière, je crois qu'il y a une légère hausse parce que l'année dernière, le sucre, c'était à 600 francs le kilo. Cette année, on l'a à 500, même à 450 dans certaines zones.
C'est vrai.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une légère baisse. Bon, en fait, on peut garder le niveau si on a une bonne politique commerciale. Parce que c'est ça aussi. Souvent, on a des pays qui sont frontaliers avec le Mali et qui font des importations à partir du Mali parce que c'est plus facile au Mali. Donc ça amène aussi des pénuries et souvent, ça amène la hausse de prix. Donc si on a une bonne politique commerciale, je crois qu'on peut garder ces prix-là à leur niveau. Sinon, comme on le sait, on ne sommes pas le seul pays musulman. On a beaucoup de pays musulmans qui nous entourent aussi. Donc eux aussi, les commerçants, dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, ils s'approvisionnent toujours là où c'est moins cher. Donc si on en a une bonne politique commerciale, je crois qu'on peut garder ces prix-là jusqu'à la fin du Ramadan.
Alors, Togola Awa Simega de kunafoni.com, quel est le souhait de vous femmes aujourd'hui pour la suite du mois de Ramadan
en
termes économiques?
En termes économiques, on souhaite vraiment que tous les prix baissent sur le marché. Aussi bien les légumes, le sucre qui a déjà baissé, là c'est bien, et la viande notamment, surtout la viande. Voilà.
Alors, est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui en faisant la cuisine?
Pas très à l'aise, parce que là, les prix ont flambé, donc c'est difficile, c'est vraiment difficile de bien gérer. Okay.
Ouais. Alors, nous allons anticiper un peu, nous allons observer quelques secondes de pause avant la suite de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Si vous nous suivez à Nyono, sachez que c'est sur la radio Tchassiri, en zone office du Niger. Cette dernière partie est axée sur le passage du Mali au tout numérique et l'interdiction d'importation de téléviseurs analogiques. Nos invités pour en parler, Togola Awasimega de kunafoni.com, Mbaye Koulibaly du syndicat des jeunes reporters du Mali et Amadou Tal du journal Le Matin. Alors, le passage au tout numérique aujourd'hui est interdit totalement depuis le 1er juillet, l'importation de téléviseurs analogiques Mbaï. Est-ce que vous comprenez cette politique?
Oui, parce que vous savez, c'est en fait une exigence aujourd'hui avec le développement des technologies de l'information et de la communication. Donc il y a une nouvelle technologie télévisuelle qui a vu le jour, donc qui est plus rentable et plus économique pour les États dans le cadre de ce qu'on appelle l'économie numérique. Donc aujourd'hui, les États ont décidé de faire disparaître ces anciens postes téléviseurs au profit de nouveaux téléviseurs. Donc depuis 2010, les États sont engagés notamment au niveau de l'UMOA, qui est engagé à ce que tous les États basculent dans le numérique en 2015. Donc depuis 2010, les États sont engagés dans ce processus. Le Mali avait engagé le processus à travers plusieurs séminaires et plusieurs rencontres au niveau national. Malheureusement, le coup d'État de 2012 a fait que le Mali a pris un grand retard. Donc on a perdu pratiquement un an sans rien faire dans ce domaine. Je crois qu'aujourd'hui, avec le retour
à la
normale, je crois qu'il faut aujourd'hui mettre les bouchées doubles pour vraiment arriver à cela, parce que la date limite, la date butoir, c'est le 15 juin 2015. Donc bientôt une année. Donc, je pense qu'il faut mettre les bouchées doubles aujourd'hui et que tous les commerçants et tous ceux qui sont impliqués dans le processus aujourd'hui puissent s'approprier du projet et que tout ça puisse arriver en terme. Je crois qu'avec le nouveau ministre quand même qui est un fin connaisseur du sujet, je crois que les choses pourront bouger et que on espère que le Mali pourra rattraper le retard parce que c'est une exigence. Si on ne rattrape pas, les autres États ne vont pas nous attendre dans ce domaine-là. Mmh. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment obligés d'aller plus vite. Et je crois que déjà, beaucoup de choses ont été faites dans ce domaine.
Amadou Tall du journal Le Matin. Une idée sur cette politique?
Oui, la première idée, c'est que nous sommes toujours en retard. Aussi bien le gouvernement et nous avec. Moi, personnellement, je savais il y a 5 ans déjà que cela va arriver. Grâce à un technicien de l'ERTM, je m'en vais d'avoir oublié son nom aujourd'hui, qui m'avait expliqué au cours d'une formation que cela allait arriver très exactement. Et à l'époque, j'avais fait un papier. À la rédaction, on m'a dit, mais c'est quoi cette histoire? Et mon papier n'avait pas été retenu. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on savait qu'il allait venir inéluctablement. Et le Mali, une fois de plus, nous sommes le porteur de bonnet d'âne. Le monde entier a évolué et nous, chaque fois, comme d'habitude, nous nous obstinons à rester toujours accrochés au passé. Ça, c'est une chose. Autre chose, ça m'a fait un peu sourire de voir le gouvernement se fatiguer, inviter les commerçants et pour leur dire, voilà, il est interdit
d'apporter des téléviseurs voilà. Analogiques.
Mais il y a une solution beaucoup plus simple que ça.
Okay.
Il faut informer la population pour dire qu'à partir de telle date, vos vieilles télévisions ne marchera plus. Donc, il ne faut plus acheter.
Eh bien, c'est le choix. Il convient aussi d'inviter les commerçants à ne plus importer, sinon ça ferait de la marchandise
mais bloquée pour rien. Mais si les commerçants entendent tous les jours qu'on dit aux populations de ne plus acheter cette télé-là, ils ne vont plus les importer. C'est beaucoup plus facile.
Je suis d'accord, parce que je me dis que c'est important de communiquer. On aurait dû communiquer depuis longtemps parce qu'on sait que c'est pas maintenant la mesure a été prise. C'était sur un échelon de longue date. Donc si depuis cette date-là, 2010, Mbaye, qui avait dit 2010, jusqu'à maintenant, on avait communiqué, je pense que maintenant on aurait trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas surpris par cette mesure qui a été prise. Et je pense aussi que c'est une très bonne nouvelle pour le Mali, une excellente initiative, d'autant plus que nous allons vers l'évolution, la mondialisation. C'est important que nous nous inscrivions également dans ces nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Awa Togola de kunafoni.com, je vous propose d'écouter un ingénieur de l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali, Djibril Ouattara de l'ORTM, qui nous explique que cela n'est pas un changement comme ça qui intervient, mais c'est, non seulement c'était programmé, mais cela va impliquer également des coûts financiers dans les familles. Je vous propose de l'écouter et on reviendra sur le contenu.
En passant au numérique, on gagne beaucoup de choses, on gagne en qualité, on gagne en émission. Mais seulement, ça va quand même engendrer des coûts, parce que les anciens téléviseurs ne pourront plus recevoir. Il faut de nouveaux téléviseurs ou encore acheter des setbox numériques.
Donc, en clair, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut un téléviseur numérique plus un décodeur.
Si tu as une télévision numérique déjà qui peut capter le DVB-T, ça ne pose pas de problème. Même si tu n'as pas de décodeur, tu peux quand même continuer à recevoir l'ORTM et puis pratiquement toutes les chaînes qui sont à noter parce que tout le monde va changer en même temps. Les écrans plats sont tout à fait numériques, mais seulement il faut faire attention parce que c'est le système de d'émission et de réception qui change un peu. Parce que tous les écrans plats qui étaient déjà sortis depuis combien de temps ne pourront pas continuer à recevoir hein, parce qu'en ce moment-là, ils auront recours au setbox. Hein.
Alors, en clair, il ne suffit pas d'avoir une télé chez soi, il faut que la télé soit numérique. Et si vous avez une entrée de décodeur sur cette télé, elle est toujours utilisable avec un décodeur. Mais la télé ne pourra pas recevoir sans antenne les chaînes de l'ORTM. Est-ce que les familles maliennes pourront supporter ce coût financier?
Bye. Bon, je crois que c'est la question tout de suite qui est à poser. Je crois que informer la question aussi, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'il faut commencer à informer d'abord les importateurs ou à informer les consommateurs? Je crois que les deux doivent aller ensemble. Il faut déjà commencer à informer les consommateurs aussi, du moment que les importateurs, les commerçants qui sont quand même, qui dépensent de l'argent dedans pour faire venir ce matériel-là, ont été informés. Donc aujourd'hui, je crois que ça aura un impact, mais nous n'avons pas le choix, parce que la technologie, quand elle change, il faut que tout le monde s'y adapte. On est dans un monde, le monde en perpétuel mouvement, et l'arrivée des nouvelles technologies de la communication et quand même ont bouleversé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui c'est une exigence des populations. Maintenant, quelles sont les mesures? Parce que dans ce genre de cas, il faut avoir des mesures d'accompagnement. Il faut que l'État arrive quand même à accompagner le consommateur à travers l'importation de ces... Je ne dirais pas subvention encore. Il faut trouver d'autres moyens quand même pour quand même rendre ces téléviseurs plus accessibles aux consommateurs. Sinon, vraiment, je crois que ça va poser le problème encore sur les salaires.
Okay. Alors, Togola Awasimega de kunafoni.com, êtes-vous déjà à la page à la maison? Est-ce que vous êtes passé au numérique?
Pas encore, et on va s'y mettre.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce coût supplémentaire que les familles maliennes vont devoir régler?
Ah, c'est clair que ça va causer un tollé, mais c'est important de passer à ce numérique-là. Et je pense que Mbaye le disait tout à l'heure, le gouvernement doit prendre des mesures d'accompagnement et aider en fait la population à avoir accès à ces nouveaux téléviseurs-là. C'est extrêmement important.
Subventionner les téléviseurs.
Tout à fait. Il faut les subventionner parce que c'est vraiment difficile. C'est difficile.
Alors, on a à un moment subventionné le matériel informatique. Et le gouvernement a-t-il les moyens aujourd'hui de subventionner les téléviseurs numériques? Amadou Tal du journal Le Matin.
Et nous serons obligés de faire ce qu'il faut. Parce que
vous, c'est qui?
Nous, les hommes. Parce que vers le crépuscule, il y a certains films qui passent et les dames, il faut absolument qu'elles regardent ça.
Ah ouais,
donc nous, que l'on veut ou pas, on va acheter, on va changer.
Ça, c'est bien.
Donc le gouvernement, il a intérêt à nous accompagner. Parce que si on nous sert, nous aussi, on va les serrer. On va les mettre, les consommateurs, à leur trousse. Mais Famoussa, c'est que le point sur lequel je voulais insister, parce que d'après ce qu'a dit Djibril Ouattara, il y aura des choix, acheter un nouveau téléviseur ou alors acheter un décodeur et continuer à recevoir l'ORTM avec antenne dans des conditions acrobatiques. Donc je pense que cette solution-là, elle ne va pas enchanter beaucoup de gens. D'abord, il va acheter un décodeur et tout ça. Donc je pense que ce qui est sûr, c'est que beaucoup de téléviseurs vont être jetés. Maintenant, il faut anticiper pour une fois, pour l'amour de Dieu, tous ces téléviseurs-là que nous allons jeter, comment est-ce qu'ils vont être gérés? J'ai pris les autorités publiques de réfléchir à ce problème-là.
Absolument.
Parce que sinon, chacun de nous va jeter son téléviseur devant chez lui. Là où...
Est-ce qu'on jette des choses comme ça ici? Ça va être difficile.
En tout cas, il faut qu'ils prennent des mesures. Parce que
moi,
là,
en tout cas, je ne suis pas en mesure de jeter mon téléviseur.
Tu vas le faire obligatoirement, tu n'as pas le choix.
Oui, ah ouais.
Oui, non, je disais que c'est extrêmement important que déjà on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire de ces téléviseurs usés, usagés, là, déjà. C'est important, parce que c'est des sources de pollution, déjà.
Oui.
Voilà.
Moi, je pense que c'est... Bon, en fait, dans beaucoup de pays, par exemple, au Cameroun, sur les anciens téléviseurs, par exemple, il y a des associations qui se sont déjà mises en place pour convertir et reconvertir ces ordinateurs en ordinateurs utilisables dans les familles. Je crois que c'est vers ces modèles-là qu'il faut aller et puis voilà, trouver quand même un moyen beaucoup plus moderne, beaucoup plus pour récupérer ces déchets-là quand même.
Alors, c'est en plus de la télévision, il va falloir ajouter un décodeur ou bien acheter une télévision numérique. Est-ce que cela ne va pas impliquer aussi le EDMS dans cette danse, Amadou Tal? Est-ce que ça va faire des consommateurs supplémentaires?
Il ne manque plus que ça, d'introduire EDM dans les jeux. Déjà, depuis quelques mois, EDM a trouvé le moyen d'augmenter la facture petit à petit, sans rien dire, sans nous avertir. Et chaque fois, on constate des petites augmentations. Effectivement, si en plus avec ces nouvelles qualités de téléviseurs, EDM pense encore à arrondir ses fins de mois à notre dépens, je crois qu'il faut à un moment donné penser à éviter, à acheter la paix sociale.
Alors, EDM dit d'ores et déjà que les foyers, les familles ne seront pas concernées par cette augmentation, c'est plutôt les entreprises. Est-ce que vous y croyez?
Ah oui, je n'y crois absolument pas, parce que ça, c'est comme les docteurs qui mettent une couche d'alcool avant de vous injecter et disent que ça ne va pas vous faire mal. Mais ce n'est pas vrai, on n'y croit pas, on attend de voir pour y croire.
Bye.
Bon, effectivement, parce que c'est extrêmement difficile de dire que les petits ménages n'auront pas une répercussion, parce que c'est quoi? Si vous augmentez l'électricité sur les industriels, ça veut dire que vous augmentez le coût de production. Et si vous augmentez le coût de production, ça veut dire que ça se répercute sur le produit au consommateur. Donc, c'est une chaîne. De toute façon, le consommateur, il a toujours sa part dedans.
C'est logique. Ah ouais, de konafoni.com.
Oui, je pense que... C'est vrai, ce que EDM a dit, c'est pas faux. ça ne concerne pas d'abord les petites consommations d'électricité. J'espère qu'ils vont vraiment maintenir ces prix-là, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de hausse à ce niveau-là.
Moi, j'aurais voulu que Djibril Ouattara soit là pour que je pose la question de savoir est-ce que cette nouvelle race de téléviseurs va consommer plus ou moins que nos vieux téléviseurs. J'aurais voulu que Djibril Ouattara me réponde à cette question.
Djibril n'est pas là, mais d'après ce qu'il nous a dit, les téléviseurs numériques ne consomment pas autant que les téléviseurs analogiques. Mais le supplément, c'est que les décodeurs qui vont s'ajouter aux téléviseurs qui existent déjà vont consommer évidemment plus de jus.
Moi, je pense que la technologie avance. Hein. En fait, même ces décodeurs-là, donc, ça veut dire que dans l'avenir, on va incorporer ces décodeurs dans les téléviseurs. C'est comme l'unité centrale au niveau des ordinateurs.
Vous êtes futuriste.
Des ordinateurs qui avant étaient séparés et maintenant on a des ordinateurs qui ont ça. Donc, avec l'évolution de la temps, je crois qu'on aura vraiment des télévisions standards où tout est incorporé, où la consommation est moindre, parce que c'est ça aussi. Le marketing, les constructeurs sont là pour ça.
Le bon Dieu t'entende.
Alors, nous n'avons pas parlé des négociations, du processus de paix. Un dernier mot, le dernier mot pour tout le monde sur ce volet-là. Un mot sur le processus de paix. 30 secondes. Bye.
Le processus de paix, comme cela.
Qu'est-ce que vous souhaitez que ça se... Comment vous souhaitez aujourd'hui que les choses puissent se passer?
Moi, je pense que, si franchement je dois dire, on n'est pas sur la bonne voie encore. Parce que on n'est pas encore de prendre les taureaux par les cornes. Ça, c'est extrêmement important. Parce que là où on est en train de chercher la solution, je crois qu'elle n'est pas là. Voilà. La solution, c'est au niveau même de l'appareil d'État. Aujourd'hui, la question que les Maliens doivent se poser aujourd'hui, est-ce que notre système, le système politique dans lequel nous existons, peut toujours nous permettre de gérer cette situation. Je crois que c'est à partir de cette question qu'on pourra répondre à cette situation. Sinon, les questions de développement, je crois que toujours il y aura un renchérissement.
Merci beaucoup, Mbaye. Amadou,
j'aimerais que le gouvernement fasse passer deux messages à la communauté internationale et aux amis qui nous aident.
Lesquels?
Premier message. Vous faites trop la pression sur nous, nous acceptons tout. Il est temps de faire la pression aussi sur la partie en face.
Deuxième message.
Ensuite, passez un message comme quoi la négociation, nous sommes pour. Mais si la négociation ne suffit pas, nous sommes prêts pour autre chose.
Merci beaucoup, Amadou Tal du Journal Le Matin. Awa Togola Simega de Kounafoni.com.
Oui, je pense que c'est important de négocier, mais avec réserve.
Merci beaucoup. Merci messieurs, merci madame. Nous sommes à la fin de cette émission. Émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Grand Dialogue a pris le nom d'emprunt de Forum de la Presse, Vendredi oblige. Et les thèmes ont porté sur la visite du président Blaise Compaoré, le sommet ouest-africain sur le virus Ebola, le ramadan, la spiritualité et la hausse des prix des denrées de première nécessité, le passage du Mali au tout numérique et l'interdiction d'importation de téléviseurs analogiques. Nos invités, Togola Awasimega de Kounafoni, Baye Koulibaly du syndicat des jeunes reporters du Mali et Amadou Tal du journal Le Matin. À la technique, il y avait Peting Diara, Ousmane Diadé Touré à réaliser cette émission. Nous vous disons bon week-end.
Le
grand dialogue.
Sigika Foba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.